Je m'appelle Sarah Normandin et je suis nutritionniste depuis plusieurs années. Ma passion, c'est d'apprendre à retrouver le plaisir de manger, de te montrer que ça peut être simple, mais surtout de t'aider à faire la paix avec ton corps et avec les aliments. Dans le podcast « Le maudit poids », prépare-toi à être surpris, à peut-être même être choqué par ce que tu vas entendre, mais fais-moi confiance. Le chemin vers la libération en vaut vraiment la peine. Salut tout le monde, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Le Maudit Poids. Aujourd'hui, on est vraiment chanceuse parce qu'on a un homme sur le podcast. Parce que c'est quand même rare, là, je dois le dire. Là, il y en a eu, mais on les compte encore sur les doigts d'une main. Donc, je suis avec Benoît Boulanger. Nutritionniste, c'est plein d'autres affaires que tu vas nous expliquer. Salut Benoît.
Ça va bien, toi? Yes. Ouais, je suis plein d'affaires dans le fond. En ce moment, je suis au doctorat en nutrition. Fait que ça, c'est mon occupation principale dans l'équipe de Vicky Drapeau. Puis justement, j'ai comme objectif de poursuivre au postdoctorat, d'essayer d'être justement chercheur en nutrition. C'est ça mon la suite de qu'est-ce que je vise. Puis sinon, en parallèle de ça, je vise aussi une carrière sportive dans le CrossFit. Ouais. Fait qu'il y en a peut-être qui ne savent pas c'est quoi le CrossFit, mais c'est un sport où on veut être le plus en forme possible sur plein d'aspects, comme par exemple la force, l'endurance, la rapidité, etc. J'ai ces deux pans-là de ma vie qui cohabitent, mais qui rendent ça aussi très intense.
Oui, j'imagine quand même, parce que j'aime beaucoup le CrossFit, mais vraiment pour le loisir, là, j'ai zéro objectif de performance avec ça. Ah, là, cool. Ouais. J'aime vraiment ça, mais ouais, c'est quand même quelque chose que tu veux mettre le temps pour performer et tout, avec un doc en plus, je t'apprécie.
Ouais. Le problème, c'est que c'est un sport de volume, là. Souvent, je le compare au triathlon, vu qu'il y a plusieurs disciplines. Tu sais, il y a la gymnastique, il y a la course, il y a le vélo, il y a l'haltérophilie, il y a le powerlifting, tu sais, c'est infini, mais ça fait qu'on peut rentrer énormément de volume, puis souvent, plus tu en rentres, plus tu t'améliores dans toutes ces sphères-là. Fait que, un peu comme le triathlon, ça triple la capacité du corps à pouvoir accumuler ce volume-là. Fait que, oui, c'est beaucoup de temps, mais justement, je réussis à bien manier les deux, puis mon équipe de recherche, là, je suis dans l'équipe de Vicky Drapeau à Québec, est vraiment très... sont très actifs, sont très sportifs, ils comprennent ça à 100% puis ils m'encouragent là-dedans. Fait que ça me fait un bel environnement aussi.
Pour c'est cool ça aussi, parce que justement, les environnements, ça fait partie des facteurs qui font que des fois, c'est difficile de trouver un équilibre dans nos habitudes de vie. Là. Fait que chapeau à l'équipe. Là.
Oui, vraiment, c'est une belle équipe pour ça, justement.
C'est employeurs, ceux qui sont à l'écoute, on retient.
c'est clair. Ils sont de plus en plus... sensible à ça souvent, là, mais souvent c'est plus des employeurs dans le monde du tech puis ces choses-là qui ont le plus d'argent pour faire ces moves-là, étrangement.
Quand même, c'est effectivement. Good, fait que là, je t'ai invité pour venir jaser de poids versus les performances parce que je t'ai vu dans un reel d'un podcast justement où tu parlais de ça puis j'ai trouvé ça tellement intéressant puis c'est de là, je sais que c'est une discussion qui est un peu... touché quand même, là, parce que c'est deux sujets qui peuvent pas être tabous, mais...
rentrer en contradiction
quand même, puis il y a beaucoup de, je pense, de mésinformations qui circulent par rapport à ça, surtout, tu sais, moi, je mets en contexte, mes auditrices, et peut-être que certains auditeurs, proviennent beaucoup de la culture des diètes, puis la culture du fitness, où ce qu'ils ont entendu beaucoup, c'est « mange moins, bouge plus si tu veux perdre du poids, no pain, no gain », etc. Fait que je trouvais ça quand même super pertinent d'avoir un expert qui vient nous en parler, finalement.
Ça a parti beaucoup de là, moi, en plus, tu sais, de mon parcours sportif dans le monde du CrossFit, c'est encore très ancré de cette façon-là. Tu l'as bien nommé, là, justement, les sacrifices, le no pain, no gain, compter ses calories, compter ses macronutriments, c'est toujours très présent. Moi, j'ai eu mon premier contact, justement, un peu avec le monde de l'alimentation intuitive, la stigmatisation autour du poids à la maîtrise. J'ai fait ma maîtrise avec la grande Simone Lemieux.
Je dévoue tout mon amour à Simone Lemieux. C'est la première qui m'a parlé de stigmatisation et de grossophobie. Puis là, on remonte au bac. Ça devait être quoi, en 2010, peut-être 2011, ce cours-là, là, dans ces eaux-là, ce qui était quand même assez rare. Là. Fait que, sérieusement, chapeau à Simone, on l'aime.
Surtout au baccalauréat, où justement, on en parle très peu de ça. Puis en même temps, c'est correct. Il y a plein d'autres choses qu'il faut savoir aussi pour être nutritionniste, mais reste que c'était quand même une bonne lacune. Puis Simone vient vraiment combler ça, puis elle est vraiment excellente dans ce qu'elle fait. Mais c'est un running gag un peu, on sourit parce que justement, tout le monde connaît Simone, puis tout le monde est en amour avec Simone. Je me rappelle que dans mes cours à l'université, pendant la COVID, j'étais mes parents encore, puis on pouvait entendre Simone donner son cours, puis dans la maison, ma soeur, ma mère, mon père se rapprochaient pour travailler proche, sérieux? Pour l'entendre son cours. C'est wow! Tellement que ça les intéressait.
C'est nice.
Elle est vraiment bonne. Fait que moi, j'ai eu la chance vraiment là, de qu'elle me choisisse pour aller faire la maîtrise avec elle parce que il y avait très peu d'étudiants qu'elle prenait. Surtout là, elle tombe en fin de carrière aussi, sans vouloir spoiler rien. Fait qu'elle en prenait de moins en moins, mais on avait vraiment une relation proche à ce niveau-là parce que dans ses cours sur l'obésité, ben elle me voyait être quelqu'un de très actif, très sportif. Puis ça venait challenger un peu justement tout ce que je savais. Puis j'étais très ouvert à évoluer dans ce sens-là. Fait que je suis resté là, des heures après ses cours à discuter avec elle sur plein de sujets, puis à challenger, puis à vraiment faire du back and forth là-dessus. Puis ça m'a vraiment fait évoluer en tant que nutritionniste. Puis ça a complètement changé ma perception de comment je voyais le poids et finalement aussi la performance, puis le poids des athlètes, etc. Fait que à partir de ça, j'ai fait ma maîtrise en comportement alimentaire.
C'est ça, j'allais te demander, c'était quoi ta maîtrise? Parce que là, c'est beaucoup trop intéressant, tout ça, là, justement. Et merci de le mentionner.
C'était vraiment cool. Bon, en tout cas, on peut en parler longtemps de mon sujet de maîtrise, mais au final, on venait faire des phénotypages de... en fait, on peut dire plus simplement...
Ouais, là on t'a perdu. Mais...
Après, dans mon monde de recherche, on venait caractériser les types de mangeurs au Québec. Ouais. Fait que dans une population avec un IMC élevé, avec une vraiment très grande population où on avait beaucoup d'informations sur leur comportement alimentaire et leur santé physique, biologique, on venait créer des types de mangeurs par une analyse qu'on appelle une analyse de profil latent, qui est comme un mélange statistique où tu viens regrouper des individus qui ont des comportements alimentaires similaires, puis après ça, on vient comme un peu phénotyper, donc donner une couleur à chacun de ces groupes-là. Puis on est arrivé à trois groupes qui mangeaient les trois de façon différente. Puis là, c'était de démontrer que parmi la population avec un IMC élevé, donc une population souvent qu'on considère obèse selon l'IMC, ben, il y a des gens qui mangent très bien, il y a des gens qui mangent très mal, il y a des gens extrêmement restrictifs, il y a des gens qui sont dénutris, il y a de tout. Puis ça vient aider leur santé parce qu'on avait les données de santé à ce niveau-là. Fait qu'on pouvait même voir est-ce que ceux qui sont dans la culture des diètes, parce qu'il y en avait un groupe qui était très fortement là-dedans, est-ce qu'ils sont en meilleure santé ou en moins bonne santé? Puis on était ouvert à toutes les conclusions possibles, mais reste quand même qu'ils étaient en moins bonne santé que les deux autres groupes. Un groupe qui était beaucoup plus intuitif, qui mangeait ce qu'il voulait, puis un groupe qui était plus dans le cliché qu'on connaît bien par exemple, la personne qui aurait un surplus de poids, qui mange beaucoup d'aliments transformés, etc. Fait que tu sais, c'était un vraiment beau projet qui m'a fait découvrir un petit peu ce monde-là en recherche.
Ouais, ça, c'est intéressant comme résultat aussi, hein, ça... C'est ça, ça remet ouais. certains préjugés vraiment en question, là, puis c'est bien, c'est le fun qu'on ait de la science là-dessus.
À partir de là, moi je me disais, OK, comment je peux intégrer tout mon intérêt que j'ai pour le sport, pour la nutrition sportive? C'est même pour ça, moi, que j'avais commencé la nutrition, dans le but de faire des gains, tu sais, je voulais aller justement améliorer ma performance. Il faut tout le temps garder ça en tête que j'ai un côté très intense à athlète. Donc, je voulais faire le lien entre les deux. Je me disais, c'est pas possible que pour monsieur, madame, tout le monde, on recommande quelque chose, puis pour les athlètes, on garde tout ce côté-là de restriction, ce côté-là d'importance relié avec le poids. Puis ça sonnait wrong, ça sonnait comme mal placé de faire cette distinction-là. Fait que, au final, la question que je suis venu à me poser, puis même quand on s'en est parlé des sujets qu'on voulait parler aujourd'hui, ça m'a amené à pousser encore plus ma réflexion, là. C'est est-ce que perdre du poids va réellement améliorer ma performance? Puis c'est une vraie question qui est importante à se poser en général parce que si c'était toujours oui, ben là, il faudrait comme chercheur voir un peu c'est quoi la meilleure façon de faire puis qu'est-ce qu'on devrait faire pour faire perdre du poids à nos athlètes parce que nos athlètes, leur seul but souvent, leur but premier en fait, pas leur seul but, c'est bien important, c'est d'améliorer leur performance. Fait que si perdre du poids améliore la performance, ben il faut trouver une façon de perdre du poids. Par contre, quand on regarde la littérature là-dessus, c'est pas mal plus compliqué qu'on pense. Il y a beaucoup de chercheurs qui sont dans une tangente très, très américaine, on va dire, très de droite, où ça va être justement ils ont essayé d'associer beaucoup la perte de poids à une amélioration de la performance dans des sports où on peut, par exemple, mesurer une performance par, je sais pas moi, le wattage par kilogramme. Les gens qui font du vélo peuvent se reconnaître. Ou même le temps au marathon divisé par son poids, des choses comme ça qui viennent souvent biaiser les résultats en nous amenant, oui, réellement, quand on perd du poids, on augmente la performance. Par contre, dans ces études-là, on se rend compte aussi que ce n'est pas dans tous les cas, puis que si on enlève cette partie-là, par exemple, wattage par kilogramme, puis on regarderait juste le wattage, ben, il y a une diminution de la performance. Fait
Intéressant.
que, dépendamment de l'angle que tu vas aller regarder ces résultats-là, ben, tu ne vas pas avoir les mêmes conclusions non plus. Fait que, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que ça coûte
Oui,
aussi de perdre
ben
du
c'est
poids?
ça.
Parce que,
Oui. J'aime ça que tu amènes ça
non,
là.
mais,
C'est toujours ça qui. Ouais.
ça coûte cher au final. On s'entend pour. Là, c'est très théorique, puis c'est très. Ça peut même être stigmatisant, mettons, de dire ça comme ça, mais au final, si on dépense plus d'énergie qu'on en consomme ou qu'on en intègre, qu'on en ingère dans notre corps, on va tendre vers une diminution de notre poids corporel, probablement peu importe ce qui arrive. Ce qui devient complexe, c'est qu'est-ce qui est impliqué dans le fait de ce qu'on ingère, puis qu'est-ce qui est impliqué dans le fait de ce qu'on dépense comme énergie, mais au final, reste qu'on peut quand même se rallier à ça comme étant la loi de la thermodynamique là, que bien des influenceurs utilisent. Fait que pour justement créer cette perte de poids-là, ça nécessite d'être dans un déficit. Puis souvent, ce déficit-là va coûter extrêmement cher à l'athlète, à plusieurs niveaux. Souvent, ça va être justement réduire ses apports caloriques énergétiques de ce qu'il va manger, être insatisfait par exemple de sa diète, ne pas combler sa faim à 100%. Puis ça va avoir des impacts quand même assez néfastes sur sa performance, mais aussi sa santé physique, sa santé mentale. On va pouvoir en reparler de tous les impacts que ça peut avoir, mais ça va pas nécessairement tendre vers une amélioration de la performance, même que selon moi, ça tend quasiment toujours vers une diminution de la performance. Le premier point aussi que je voulais qu'on parle, pour mettre la table avant un peu de creuser plus loin dans c'est quoi les effets néfastes de. Justement, de vouloir perdre du poids pour améliorer notre performance, c'est un petit peu le poids naturel de performance,
Ah,
j'allais
j'aime
dire en
ça.
anglais,
Oui.
le poids de
C'est beau ça.
performance. Ben, pour moi, c'est le concept de base à intégrer pour après ça pousser le reste. Parce que si on ne s'entend pas sur le fait qu'on a chacun un poids naturel de performance différent, ben, il va toujours avoir des détracteurs qui vont nous amener la possibilité que perdre du poids, c'est bénéfique. Comme individu, on a un jeu de cartes génétique différent de toi, moi, ma soeur, mon frère, ma mère, etc., qui dépend de plein de facteurs. Donc, c'est très large comme statement, mais reste que c'est vrai. À partir de ça, on va tous avoir un poids naturel de performance, dépendamment du sport qu'on va faire, dépendamment justement du jeu de cartes qu'on a. Fait que prenant ça en compte, notre but comme athlète, c'est de se tendre vers ce poids naturel-là de performance le plus possible. C'est d'avoir des habitudes alimentaires, des habitudes d'activité physique qui nous font tendre vers, quand je parle d'activité physique, je parle de nos entraînements, par exemple, pour s'améliorer, qui vont nous faire tendre vers ce poids-là où on va se sentir le mieux, où on va avoir le moins d'impact sur notre santé physique, le plus d'impact positif sur notre santé mentale, puis qui va nous faire performer à son maximum. Ce poids-là n'est pas nécessairement plus faible ou plus élevé que celui que tu as en ce moment, mais c'est possible qu'il le soit. D'où l'importance, par exemple, d'aller voir un nutritionniste sportif ou un nutritionniste qui fait de la nutrition du sport pour tendre vers justement ces habitudes-là alimentaires, puis ces habitudes-là d'entraînement qui te font tendre vers ta meilleure performance. Pas tendre vers
Oui,
un
c'est ça.
poids.
La nuance est
Le
importante, là.
nutritionniste ne se focalise pas sur viser un poids précis. Au contraire, c'est absolu le concept que je viens de déterminer là, le poids naturel de performance. On ne va jamais vouloir le mettre en chiffres. Au contraire, on va vouloir se concentrer sur c'est quoi les habitudes alimentaires qui vont me permettre d'avoir la meilleure performance, c'est quoi les habitudes d'entraînement, d'activité physique qui vont me permettre d'avoir la meilleure performance, puis combiner ensemble, ça donne quoi ce comme poids? Au final, on s'en fout, mais on va tendre vers ça. Fait qu'on n'a pas à stresser par rapport à est-ce que je vais perdre, gagner du poids, puis qu'est-ce que je devrais faire pour justement
Mais c'est
y
comme
arriver.
dans le reste de la société, c'est que en fait, l'emphase est tellement mise sur le poids, le chiffre, sur la balance. Puis je pense que dans le milieu du sport, on s'en sort pas parce que la culture des diètes est là, parce que y a des préjugés par rapport au poids, parce qu'il y a de la grossophobie, parce que bon, peu importe, amenons toutes les raisons. Puis oui, c'est la même chose que quand on parle de poids naturel. ça va pas dans notre objectif de chiffrer ce poids-là, ça va être de mettre le focus ailleurs. Tu sais, comment sont mes comportements alimentaires? Est-ce que je suis capable de reconnaître mes besoins? Est-ce que je comble mes besoins? Puis tu sais, tu parlais de déficit calorique tantôt dans l'espèce de théorie, tout ça. Je trouvais ça intéressant aussi. Puis je pense que c'est un des points qui va être réabordé après, c'est que c'est beau le déficit calorique, mais des fois, je pense qu'il faut faire la nuance. Puis tu me dis ce que tu en penses, là. Mais on dirait que je trouve qu'il faut faire la nuance entre si je mange au-delà de mes besoins puis que je bouge pas tant que ça, versus si je fais un déficit calorique qui va en dessous de mes besoins. Tu sais que là, on voit que c'est ça qui fait que quand il y a une perte de poids avec un déficit calorique où je vais en hypo, là, en bas de mes besoins, le maintien est ultra difficile parce qu'il y a beaucoup de compensations corporelles qui vont se faire au niveau de plein de types d'hormones et compagnie qui vont essayer d'aller rebalancer le tout, de justement stimuler la faim davantage, l'appétit, réduire le rassasiement. Ben, je trouve que la nuance est intéressante aussi. J'aurais aimé ça t'entendre, mais je t'ai pas préparé pour cette question-là.
C'est super intéressant.
Je te pitch.
C'est super intéressant ce que tu dis parce que mon sujet de doctorat.
Sérieux? Oh my God! OK, là, je suis intéressée.
C'est pas sur le sport en tant que tel, mais c'est vraiment sur. C'est une étude d'intervention, mais peu importe le sujet en général que ça aborde, cette intervention-là, c'est qu'est-ce que ça fait quand on vient de faire un déficit énergétique restrictif sur, par exemple, la physionomie du corps, la sécrétion d'hormones, comment ça l'affecte.
OK, non, là, je suis trop excitée, là.
ce qu'on sait de base, déjà là, comme en prémisse, c'est que quand on va perdre du poids, ce qui va faire qu'on va le reprendre, c'est oui, un développement d'habitude alimentaire souvent qui est malsain, mais c'est toujours relié à la faim. Ça, on l'a bien établi dans la littérature, c'est relié à la gestion de la faim par la suite. Que ce soit causé par justement un mauvais comportement alimentaire, par exemple de couper sa faim en buvant de l'eau, mettons, ou même au niveau physiologique par une sécrétion hormonale différente. T'sais, ça va vraiment avoir des effets sur plein de niveaux. Puis c'est aussi ça sur quoi on travaille dans notre doctorat, c'est essayer de trouver une façon de manger qui est non restrictive, inclusive, qui permet de justement. Sur du long terme, induire une perte de poids. On s'entend, il y a plusieurs nuances à avoir là-dessus, mais en recherche, là, souvent, c'est un petit peu plus stigmatisant justement à ce niveau-là. Mais on essaie de trouver une façon qui permet ça sur le long terme de ne pas avoir une adaptation négative du corps de manière physiologique là, en termes de sécrétion hormonale, mais aussi sur nos comportements alimentaires, d'où ma partie de mon doc qui est juste sur l'évolution des comportements alimentaires en relié avec la gestion.
Mais merci pour vrai de faire ça, parce que c'est une des critiques que j'ai le plus par rapport aux études qu'on a en ce moment sur le poids. T'sais, moi, je ne suis pas une chercheure, je ne suis pas une scientifique qui cherche, qui fait de la recherche, mais j'ai le côté clinique, puis j'en vois en... Là, des femmes qui ont réussi à faire le yo-yo avec leur poids, puis à faire des restrictions, à perdre le poids, mais il y aura toujours une reprise de poids subséquente dans les années qui suivent. Ça va vraiment être difficile après ça, puis il y a vraiment un effet où le potentiel après ça, que le poids redescende, il va être vraiment réduit à force d'en avoir du phénomène yo-yo. Puis c'est ça, c'est que on a comme la littérature qui dit d'un côté, ben il faut perdre du poids pour réduire les risques pour la santé. OK, oui, le poids, c'est un facteur de risque pour la santé, mais on se fait dire après ça, les professionnels vont, on va dire ça aussi, en m'excluant parce que j'en suis consciente, d'aller perdre du poids pour améliorer la santé, mais c'est pas une recommandation qui fait du sens, dans le sens que comment la personne va réussir à la produire cette perte de poids-là, puis à la maintenir surtout, puis c'est là où ça devient un petit peu tannant, parce que on peut nuire plus qu'aider si la personne se fait juste dire « perdre du poids », mais je vais faire quoi? Ben, je vais peut-être essayer d'aller dans un régime, une diète, ou je vais écouter les influenceurs, ce qu'ils ont à dire là-dessus. Je vais peut-être aller consulter en nutrition, mais je vais peut-être être insatisfaite parce qu'elle va me dire que je ne peux pas me garantir des pertes de poids. T'sais. Fait qu'il y a comme tout ça que j'ai en tête aussi.
T'as l'air de l'avoir vécu, celle-là. T'as l'air de l'avoir vécu,
oui, celle-là. Ben... Dans le sens que, je veux dire, c'est que ça que j'entends, là. Tu sais, moi, ma clientèle, c'est que ça, des femmes qui se sont fait dire qu'il fallait qu'ils perdent du poids pour améliorer leur santé ou pour plein d'autres raisons, puis que ils arrivent dans mon bureau, sont désespérés, puis sont comme j'ai tout fait, là. Puis ils ont vraiment tout fait, là. Comme moi, je serais pas capable de faire ce qu'ils font. Puis ils réussissent
pas. Mais on n'est pas capable. Dans la recherche, on l'a pas découvert, on l'a pas trouvé. Puis selon plusieurs chercheurs, ça n'existe pas une façon restrictive, mettons, calculée de perdre du poids sur du long terme. Ça n'a jamais été fait. Moi, je suis très proche de Benoît. Ben, très proche. On soupe pas ensemble, mais je suis pas de Donc, Benoît Arsenault.
Benoît Arsenault, on l'aime beaucoup ici sur le podcast. D'ailleurs, demain, j'ai l'honneur, mais là, demain, quand vous allez m'écouter, ça va être fait, là. J'ai l'honneur d'animer une formation où Benoît va avoir sa formation, médecin va avoir une formation et je vais avoir ma partie de formation sur la restriction alimentaire et sur tous ces sujets-là. Fait que oui, je suis une grande fan.
Je suis proche de lui parce que justement, il a évalué mon mémoire. Puis, il dit souvent, lui, là, c'est son cheval de bataille, c'est on n'a jamais réussi, puis on ne réussira probablement pas à trouver une façon restrictive d'induire une perte de poids de cette façon-là. Fait que, tu sais, nous, dans prenant ça aussi en compte, c'est comme ça que le projet de recherche a été basé, en vraiment en se basant sur la gestion de la faim au lieu de se baser, par exemple, sur un calcul de calories ou des choses comme ça. T'sais, encore là, souvent, ça a l'air encore d'une diète, la façon que c'est présenté en recherche, mais c'est juste parce qu'on est forcé de le standardiser, c'est ça le problème. Là, ce qui peut se retrouver dans le public, ce qui peut ressortir comme information de ça, ça va être beaucoup plus riche que simple diète à suivre, là, c'est juste, au contraire.
Oui, puis c'est là que ça devient... Je fais juste une petite parenthèse, mais tu sais, ça brasse beaucoup ces temps-ci avec la médication pour perdre du poids, qui est, pour ne pas le nommer... Semaglutide / Ozempic. Bon, Ozempic n'est pas indiqué pour la perte de poids, mais il y a des gens pour qui ça marche réellement parce que justement, ça va jouer sur cette faim-là, ces signaux-là, faim, rassasiement. Puis c'est ça qu'on n'est pas capable de produire sans cette molécule chimique-là, finalement. Puis là, je ne suis pas en train de faire la promotion de l'Ozempic, pas du tout. Vous m'écoutez, vous le savez, je ne suis pour ni pour ni contre. C'est comme juste de repropager une information qui est valable, mais je trouve que ça met. Ça prouve quand même bien ce qu'on essaie d'expliquer aussi, que c'est pour ça que c'est complexe le poids, c'est que sans support chimique ou autre, de produire et de maintenir une perte de poids, c'est difficile parce qu'il y a tellement d'adaptations. Puis tu sais, c'est pas juste une question de responsabilité individuelle, de motivation, de t'as juste à manger moins, bouger plus, puis de maintenir ça, puis les rages, t'as juste à les contrôler. Sorry, des rages, c'est pas une question de volonté, là, il y a plus que ça. Tu sais, oui, il peut y avoir une habitude derrière, mais c'est vraiment pas juste ça, il y a vraiment des raisons physiologiques à ça, en fait.
100%, puis ça faisait aussi une partie de mon mémoire, de ma maîtrise, vu que ça avait un peu un lien avec les comportements alimentaires, mais le cycle de la restriction, puis en recherche qu'on appelle la désinhibition, qui est la perte de contrôle par rapport aux aliments ou un binge classique, il est tellement fortement associé, puis c'est tellement clair, ça en est comme aberrant que ça soit pas ça soit pas moins recommandé d'avoir des comportements restrictifs envers des aliments. Puis c'est souvent les chercheurs, des fois je trouve qu'ils justement font pas la part des choses en justement dans l'enfer de la recherche, en restreignant certains aliments par exemple, ou en faisant en encourageant un comportement restrictif, en sachant très bien que ce que ça cause sur le long terme ou ce que ça avec quoi c'est associé finalement quand ta recherche dure plus que maudit 6 mois, ben c'est négatif. Tu le sais déjà. En ce moment, ce que tu fais, c'est que tu cherches une solution, un problème qui va être plus loin de toute façon. Fait que, en tout cas, j'ai ben de la misère avec ça, la restriction en général. Puis tu vas voir, on va reparler de sport un petit peu, mais...
Excuse-moi, là, tu m'as bien excité avec ton sujet, là. Mais c'est comme c'est mon sujet d'adore, évidemment. Mais oui, mais c'est ça, c'est qu'en fait, les chercheurs, ils ont leur angle mort. Les cliniciens, on a notre angle mort. Les gens qui vivent ça ont leur angle mort. Fait que tout le monde parle de ce qu'ils vivent puis de ce qu'ils voient. Mais je pense qu'on aurait tout avantage à s'asseoir ensemble puis avoir une bonne discussion, tu sais, parce que on peut pas avoir une vue d'ensemble tout seul de notre côté, tu sais, il faut garder tout ça en tête finalement, là.
C'est la phrase que tu as dit, là, c'est la conclusion de ma mémoire, quasiment.
C'est bien malade, ça.
Je parle justement des chercheurs en grossophobie ou en, mettons, stigmatisation autour du poids, à l'égard du poids. Puis les chercheurs en obésité. Puis bon, ma conclusion, c'est de dire, hey, comment parlez-vous, là? Parce que en ce moment, vous travaillez dans deux directions opposées, puis ça sert à rien, tu sais.
Oui, ça fait des camps, tu sais. Puis on le voit, là. Tu sais, ça fait vraiment des camps, ça fait des insatisfactions. Puis on essaie, les cliniciens qui travaillent dans ce milieu après, là, de comme trouver notre place au travers de tout ça. Mais c'est pas évident, puis il faut avoir l'ouverture aussi. Puis c'est facile, là. J'ai comme. De se laisser influencer d'un bord ou de l'autre, je l'ai vécu aussi, tu sais, puis c'est important de se ramener après, puis de se dire, ben, tu sais, il faut que je regarde tous les angles, même s'il y a des angles qui me gossent un peu plus ou qui correspondent peut-être un peu moins à ce que j'avais envie d'entendre, mais c'est de garder ça en tête aussi, là,
Même comme chercheur, c'est extrêmement dur, d'être tout le temps, il faut tout le temps que tu sois prêt à ce que tu penses être vrai et faux. Il faut toujours que tu sois prêt. Fait que, peu importe quelle prémisse que tu as pour un problème, faut toujours être prêt à ce que ce soit faux. Puis, tu sais, même peu importe à combien de littérature tu te bases, tu sais, oui, je peux pas croire qu'une étude va renverser tout, là, ça prend plus, mais reste que on doit toujours être ouvert à justement à être dans le tort sur tous les sujets. Fait que c'est ça qui est le plus dur. Puis c'est ça que Simone, à mon avis, fait le mieux. Parce qu'elle est, selon moi, tu sais, elle fait partie du mouvement comme un peu anti-grossophobie, alimentation même intuitive, en restant tellement
Identité.
ouverte constamment au congrès en obésité, elle est là, elle est présente, alors que tout le monde, justement, vient lui poser des questions, vient la challenger. Elle est constamment prête à justement faire évoluer sa pensée là-dessus.
Bravo.
Elle est
Mais
incroyable.
vraiment, puis ça va en prendre d'autres. Ça prend des
Ouais.
petits là, qui vont faire ça après. Fait que merci d'en faire partie aussi. Tu as fait un très beau jeu de mots, là. Je vais faire mon père de moi-même, mais tu as dit c'est elle qui le fait le mieux et c'est Simone le mieux. OK, c'était le bout de plat du podcast. Je peux pas m'empêcher
Un jeu de mots aussi, fait que ça va.
de le dire. Bon, fait que là, si je te. Oui, vas-y. Oui, je veux dire.
Non, mais j'allais partir du sud où
Oui.
j'avais quitté, puis je c'est parce que j'y pense depuis tantôt. Mais une des premières choses aussi que les gens vont penser quand on va parler de perte de poids et de performance, par exemple, qu'on parle de course à pied, c'est la sensation. Okay?
Ouais.
C'est comme je me sens
Ouais.
plus légère, là, je vais être meilleure à course à pied. Puis ah, maudit qu'aujourd'hui, je me sens lourde. Même affaire dans le monde du CrossFit, là, c'est peut-être que je vais attirer un petit peu un public plus entraînement fonctionnel, mais la gymnastique,
Ouais.
c'est pour ça que je parlais de ça aussi dans l'autre podcast. C'est vraiment un issue très important au
Ouais.
niveau du poids parce que les gens ont vraiment l'impression que, tu sais, en fait, s'ils mettent une veste de poids, ils savent que c'est plus dur de faire un pull-up. Fait qu'eux, ils ont l'impression que s'ils enlèvent du poids de leur corps comme une veste, ben ça va être le même pull-up puis il va être plus facile. T'sais. La nuance
Ah.
à faire là-dedans, c'est que c'est pas une
Ah,
veste,
mon
t'sais.
Dieu.
Pour enlever cette veste-là, ça coûte extrêmement cher. Puis ce cher-là, c'est en niveau d'énergie, c'est peut-être même en récupération, c'est peut-être en motivation à aller faire de la gymnastique ou de la course à pied qui ne va pas t'améliorer en course à pied, qui ne va pas te faire sentir plus légère. Fait que cette sensation-là de vouloir être plus légère vient du fait que justement qu'on a déjà couru avec un poids supplémentaire ou avec une veste, peu importe, où on a la perception de savoir, mais c'est pas relié, tu sais. Puis quelqu'un qui est, là, je vais sonner harsh un peu, mais je trouve que c'est la meilleure façon de faire passer le message, puis je le dis souvent à mon gym, mais quelqu'un qui a de la misère en gymnastique ou à soulever le poids de son corps, c'est pas parce qu'elle est trop lourde, c'est parce qu'elle est pas assez forte. Puis moi, je le dis dans sa face, directement comme ça pas, tu sais, souvent c'est comme, ah, je suis trop lourde pour me tirer. T'es pas trop lourde, t'es pas assez forte. T'es pas assez forte des lats, t'es pas capable d'engager comme il faut ton dos, tu tires pas assez avec tes biceps, etc. Fait que, même affaire pour la course à pied. T'es pas plus lente à la course à pied parce que t'es plus lourde. On connaît
Oui,
des gens qui
c'est
courent
ça.
des marathons super rapidement, de poids très élevé. T'es pas bonne à la course à pied parce que tu cours pas assez, parce que t'as une mauvaise foulée, parce que là, ça sonne super méchant, là. Mais
Non,
je
mais
trouve que
c'est
c'est la
un.
meilleure façon de faire passer le
Oui.
message de lâche ton poids, ça n'a pas de lien, à notre niveau en tout cas, avec la
Mais
performance.
merci de le nommer parce que. Puis ton exemple avec la veste est vraiment insane, là. J'adore le côté visuel de la chose. Parce que je pense que ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est pas. Tu sais, ta veste, là, c'est du poids, mais c'est du poids pas mort, là, je sais pas comment le dire, là, mais tandis que si toi, tu prends, parce que je vais me prendre un exemple, ce que je ferai pas souvent, là, mais quand j'ai commencé le CrossFit, j'avais des bras minuscules, là, j'avais zéro force, là, j'avais de la misère à enlever mes sacs d'épicerie, là, no joke, là, vraiment pas nice, là. Puis là, j'ai découvert que je pouvais être beaucoup plus forte que ça, mais j'ai tellement pris de poids en chiffres sur la balance. Mais dans les faits, mes vêtements, ils n'ont pas changé tant que ça. Là. Un peu parce que oui, je veux dire, j'ai pris des muscles beaucoup au niveau du haut du corps. Fait que dans ce sens-là, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que la masse musculaire, c'est vraiment lourd. Puis les gens sont impressionnés quand je leur nomme à quel point ça peut être lourd. Fait que tu sais, si on revient à cette prémisse de base-là, que je prends quelqu'un qui est justement une fille qui a décidé de s'entraîner à prendre de la masse musculaire, t'es peut-être plus lourde qu'avant ta masse musculaire, mais si t'as pris de la masse musculaire, c'est quelque chose qui va t'aider à forcer peut-être un petit peu plus aussi, là, t'sais, je sais pas jusqu'à quel point, mais c'est pas un poids mort que tu te rajoutes. C'est pas nécessairement, c'est pas toujours de la masse adipeuse que tu vas prendre, que tu vas prendre du poids, ça dépend qu'est-ce qui s'est
Exact.
passé, là.
Surtout quand la façon que tu le fais, c'est en développant des habitudes alimentaires saines, alimentaires et d'activité physique. Puis, on peut-tu arrêter de mettre l'emphase sur qu'est-ce que le corps a l'air et bien plus sur qu'est-ce que le corps est capable
Oh
de
mon Dieu, tu
faire,
viens de
t'sais?
quoter équilibre bien raide, toi, là. L'organisme
Ouais.
équilibre, une campagne qui a utilisé ce slogan-là. C'est malade.
Ah, mais ça se peut que ça soit dans mon
J'aime
subconscient, puis ça se peut que je l'ai vu, que
ça. Très
je
nice.
donne tous les crédits à quelqu'un, mais peu importe, le message reste le même. T'sais, au final, le fait que tu te sentes plus forte en soulevant tes sacs d'épicerie, le fait que tu aies plus
Et oui.
d'énergie à ta job pour toffer longtemps des rencontres en nutrition, le
Ouais.
fait que quand tu te penches pour ramasser ta boîte Costco, tu t'éclates pas le
On s'est
dos.
pas fait.
Je parle par expérience personnelle, mais tu sais, c'est tout des. Ou le fait que tu te penches pour ramasser ton neveu puis que tu sois capable de descendre dans un squat, tu sais, c'est ça là, qu'on veut avoir comme rythme de vie. C'est ça qu'on veut être bien dans notre corps, pas bien devant notre miroir,
J'aime
tu
ça.
sais, pas bien dans notre perception de la beauté, des standards de beauté de notre société. Au final, c'est un peu aussi pourquoi j'aime le CrossFit pour ça, même si ça a énormément de défauts au niveau justement de l'alimentation puis de l'aspect composition corporelle, mais c'est parce qu'on met tellement l'emphase sur les femmes fortes, les femmes qui sont capables de bouger des poids lourds, de bouger longtemps, de courir vite. T'sais, c'est comme on mêle les attributs au même niveau que les hommes, alors que souvent on fait le
Ah,
contraire.
définitivement. Puis c'est comme tout le côté très empowerment et un peu féministe là, de la chose, mais c'est tellement satisfaisant, là. J'avais fait un déménagement, là, puis tous les
Ah
hommes
oui.
étaient comme « Ah, attends, Sarah, ça va être trop lourd pour toi. » J'étais comme « De qu'est-ce que ça va être trop lourd pour moi? Non, non, shoot-moi là à la boîte. » Puis ça allait super bien, là. J'étais comme « That's it, là, ce petit feeling-là. Ouais.
100%. Fait que au final, c'est un peu ça mon rant sur la perte de poids et la performance. Ça, dans aucun cas, on devrait focuser sur la perte de poids pour améliorer sa performance. Le meilleur exemple que je peux donner de ça, puis surtout pour toutes les coureuses qui écoutent le podcast, c'est une histoire assez connue, là, mais d'une coureuse qui était sponsorisée par Nike. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça.
Non, c'est pas celle-là que j'avais en tête.
Ouais. Coureuse émérite, elle est super bonne, puis elle est très jeune, elle a genre. Je sais pas, moi, je veux pas dire des mensonges, je fais qu'elle est juste jeune, mais tu sais, mettons, début de l'âge adulte. Puis, elle est promue à justement les plus grands honneurs en termes de demi-fond, puis de fond, en termes de course. Puis, elle se fait signer par Nike, puis là, son nouvel entraîneur qui est relié avec l'organisation de Nike veut absolument qu'elle perde du poids pour améliorer ses performances. Puis, il y a un côté vieux jeu dans la course qui est justement de prendre ses athlètes puis de les faire perdre du poids pour qu'ils se sentent plus légers puis qu'ils courent plus vite au final. Puis à des très hauts niveaux de performance, c'est pas faux de dire que justement avec un poids plus léger, cette personne-là courait plus vite. Mais ce que ça lui a coûté à cette fille-là pour descendre son poids a tellement nui à sa santé mentale, à sa récupération, au nombre de fois qu'elle tombait malade. C'est aussi, on va parler de c'est quoi les enjeux de justement se sous-alimenter, qu'au final, elle a juste continuellement fait les pires performances de sa vie pour finalement arrêter la course à pied, t'sais. Puis défaire son contrat avec Nike. Puis ils ont littéralement brisé une athlète que s'il aurait laissé se développer comme elle l'avait voulu, écouter sa faim, alimenter ses entraînements, moi, selon moi, elle aurait continué d'améliorer ses performances sans jamais perdre du poids. Elle était déjà à son poids naturel de performance. Elle n'avait pas besoin de le changer. Fait que,
Ah, c'est
t'sais,
fou,
à moins que tu sois quelqu'un qui a des habitudes alimentaires très décalées, qui a des habitudes d'activité physique très décalées, comme on parlait tantôt. Donc, tu es extrêmement éloigné de ton poids de performance, mais c'est vrai que tu vas perdre du poids, puis qu'en même temps, tes performances vont s'améliorer. D'où vient un peu des résultats dans la littérature scientifique de ça, tu sais. Mais si tu as des bonnes habitudes alimentaires, des bonnes habitudes d'entraînement, peu importe ce que ton poids va faire, tu vas tendre vers un poids qui va améliorer ta performance, ton poids de performance naturelle, puis qui va être bénéfique pour toi. Fait que focus pas sur le poids, focus sur ces habitudes-là, tu sais.
totalement, j'aime ça. Puis juste l'histoire que tu viens de conter, ça ramène quand même en lumière tout le côté, l'importance qu'on accorde à l'apparence physique, les standards de beauté de la société. Tu sais, ça reste que c'est une compagnie aussi, puis peut-être qu'à cette époque-là, ils misaient beaucoup sur le format corporel, tu sais, pas juste les performances. Là. Oui, il peut y avoir des préjugés par rapport aux performances, mais quand même.
100%. 100%. Puis, mettons que je ne veux pas déraper plus longtemps là-dessus parce qu'il y a d'autres choses je veux qu'on parle, mais la championne, là, je parle encore de CrossFit, j'ai
Mais non,
l'âme aussi, mais
mais c'est bien correct, t'es passionné, c'est ton sport.
la championne du monde de CrossFit de cette année, elle a un corps complètement différent des autres. Complètement. Elle a beaucoup plus. De toute façon, elle parle pas français, là, fait que je suis correct.
Nomme-le, nomme-le.
Elle a beaucoup plus de masse adipeuse que les autres. Elle est beaucoup plus grande. Elle a des longs bras, elle a un long tronc. Elle n'a vraiment pas la shape, on va dire, de l'emploi d'une crossfitter. Et elle a gagné
Wow.
cette année. Fait que c'est un peu aussi en lien avec l'extrait du podcast que je parlais la dernière fois avec les gymnastes. Oui, les gymnastes, ils ont tous un gabarit de poids similaire depuis vraiment longtemps, mais c'est probablement aussi parce qu'on a toujours associé ce genre de poids-là à la performance que cette petite fille-là qui fitait dans le cadre, on lui a accordé bien plus d'importance, bien plus de coaching, bien plus d'encadrement, que oui, c'est elle finalement qui finit par être dans la Team USA aux Olympiques, mais quand on donne la chance à celle qui a un corps légèrement différent, genre comme Simone Biles, par exemple, qui est aujourd'hui une athlète gymnaste de Team USA extrêmement émérite, extrêmement populaire, elle a un corps différent des autres. On s'entend, là, vous irez la voir sur Google, elle a un corps parfaitement des standards de beauté, mais dans la gym, elle est considérée complètement hors norme. Puis au final, c'est elle qui ramasse les médailles, c'est elle qui lead l'équipe. Wow. La preuve aussi que justement, comme dans le crossfit ou dans la gymnastique ou dans tous les autres sports, c'est pas parce qu'il y a une shape de l'emploi que si vous pratiquez ce sport-là puis que vous n'en faites pas partie, que vous ne pouvez pas utiliser vos cartes à vous, votre différence génétique à vous pour pousser dans ce sport.
Nice, my God. C'est un beau speech, ça. J'aime ça. J'adore ça. Très nice. Fait que là...
Tu voulais dire?
Non, c'est ça, je me demandais, là, tu veux-tu qu'on rentre dans le gros sujet de la restriction, justement? Qu'est-ce qui se passe quand on fait la restriction alimentaire dans le but d'essayer d'abaisser son poids?
Ouais, exact. On va aller comme plus dans le concret, le qu'est-ce que ça peut affecter. Un peu les facteurs, dans le fond, qui vont influencer la performance quand on vise un déficit calorique. Les premiers concepts qui sont le fun aussi à savoir, c'est le concept du REDS, là, c'est en anglais, mais c'est le principe d'être en restriction énergétique en pratiquant un sport de haute intensité ou juste d'intensité normale, qui peut mener à le genre de LEA, là, qui est la... En français, ça serait la faible... La faible availability de l'énergie, la faible, comment on dit ça? Availability en français, c'est.
Disponibilité
énergétique, exactement. Faible disponibilité énergétique. Donc, ça, c'est le concept comme le plus clé à connaître, c'est que quand on réduit nos apports, que ce soit en glucides, en protéines, en n'importe quoi, notre corps tombe un peu en mode faible disponibilité énergétique parce qu'il ne veut pas mourir, on s'entend, il veut garder ses réserves. C'est ça qui vient être extrêmement néfaste au final sur notre santé physique. Fait que par exemple, on va avoir un plus grand risque de blessure par plusieurs types de carences qu'il pourrait avoir. Le classique, ce serait de penser une carence en calcium ou en vitamine D vient nuire à la santé des os, mais il y en a plein d'autres, même au niveau de nos tendons. Au niveau de la santé mentale, fait que tout ce qui est justement relation avec l'alimentation, plus tu es en déficit énergétique, plus tu tombes en REDS puis en LIA, en faible disponibilité énergétique, plus ton corps envoie des signaux forts pour augmenter l'importance que tu accordes à la nourriture, l'importance que tu accordes à ton poids, à ta silhouette, à son changement. Ça aussi, c'est très bien documenté. Fait que niveau santé mentale, ça l'affecte négativement aussi. Puis, sans même parler de juste la confiance que tu peux avoir à l'entraînement puis à performer. Puis par-dessus ça, il y a la santé immunitaire aussi qui vient être touchée au niveau du nombre de fois que tu vas être malade dans une année qui devient beaucoup plus important. Puis dans un monde un peu nouveau avec la COVID qu'on va devoir vivre avec la grippe qui revient chaque année, ça reste un facteur extrêmement important, extrêmement décisionnel pour un athlète sur sa saison, sur sa compétition. Puis là, je dis athlète, mais n'importe quel athlète amateur qui a un marathon le sait. S'il est malade le jour du marathon, son marathon, il ne sera pas le fun puis il ne sera pas au meilleur de ses capacités. Fait que pour toutes ces raisons-là, d'être en faible disponibilité énergétique, donc de moins s'alimenter dans le but de viser une perte de poids, d'induire une perte de poids volontaire, ça mène toujours, toujours à quelque chose de négatif.
Tu sais, chez les femmes aussi, je pense qu'on peut le nommer comme symptôme dans le REDS, quand il y a une... Ouais. Perte ou l'absence des menstruations, quand les menstruations cessent d'être là aussi. Des fois, c'est pas tant connu, c'est ça que je réalise pour en avoir jasé des fois avec certaines en clinique. Là, finalement, il y a des femmes qui vont pas penser que ça peut être par insuffisance d'apport ou par justement une activité physique qui est trop intense. On va l'associer au stress, on va l'associer au manque de sommeil, mais c'est vraiment un signe aussi que ça peut être un signe physique là, qu'on est sous-alimenté, là, finalement, de même que la perte de cheveux aussi en passant.
Oui, exact, la perte de cheveux, puis souvent, il y en a plein d'autres, des symptômes du REDS, souvent justement, on le remarque plus par une augmentation des moments de binge eating, puis de préoccupation par rapport au poids, mais il y a même des symptômes physiques qui viennent. Pour reprendre les mots de Benoît Arsenault que j'ai entendu récemment en lien avec ça, les lipides, c'est la vie, du sens même que si tu perds trop de ta masse adipeuse sur ton corps, ben ton corps t'envoie le signal de ne pas procréer, tu sais, c'est ça un peu le principe aussi de l'arrêt des menstruations à ce moment-là, quand même un indice assez important que Mais un indice assez flagrant que c'est important de bien s'alimenter quand même, puis de ne pas se sous-alimenter. C'est pas la santé de moins manger, c'est pas la santé de perdre du poids. C'est faux de penser
Mais
ça.
c'est ça, c'est que c'est tellement plus complexe et nuancé que ça. Il faut vraiment. On peut pas s'arrêter à une équation aussi simple, mais c'est qu'on l'entend à tellement, tellement, tellement de tout bord, tout côté que c'est là que ça devient difficile.
Puis, je rajouterais aux trois autres que j'ai parlé tantôt, santé physique, santé mentale, santé militaire, aussi l'aspect un peu de constance. Il y a un peu moins
Ouais, non,
rapport
c'est
avec les
intéressant.
autres, mais dans ce qui va influencer nos performances aussi, ça va être le nombre de temps que tu vas pratiquer ce sport-là, le nombre de temps que tu vas avoir la motivation de faire justement tes intervalles de course ou tes intervalles de bike ou justement tes longues sorties, etc. Parce qu'on sous-estime énormément ce qu'on peut faire à long terme, puis on surestime ce qu'on peut faire à court terme. On a l'impression que justement, si je fais une diète crash, que je coupe mes glucides ou que je fais un truc funky comme ça, ben oui, il va y avoir des changements sur le court terme qui sont expliqués par plein d'autres choses que ta perte de poids, fine. Puis peut-être même que tu vas avoir des genres de sensations, des symptômes positifs là, de ce court terme-là. Mais qu'est-ce qui va se passer sur le long terme? T'sais? Puis là, tu te dis, bon, ben, on s'en fout du long terme, je vais miser sur ce que je sens là, mais reste quand même qu'on surestime beaucoup trop qu'est-ce qu'on peut faire sur le court terme versus sur le long terme. Puis si on est constant dans la façon dont on s'alimente sur 6 mois, sur 1 an, sur 4 ans, sur 5 ans, t'sais, la vie ne s'arrête pas dans la prochaine année, là. Fait qu'il faut penser sur le long terme. Ces habitudes alimentaires qu'on développe, on veut les garder longtemps. Plus on les garde longtemps, plus on se set up pour un succès ou une amélioration de la performance, le overall.
Totalement. Oui, vraiment. C'est un très bon point à rajouter, ça aussi. Puis, si on ne mange pas assez puis qu'on bouge beaucoup, tu sais, ça aussi, je pense que c'est quand même, on va se le dire, là, c'est assez valorisé dans la société de dire hein, moi, je mange vraiment moins, j'ai réduit mes apports puis je bouge plus parce que c'est ça qu'on entend comme message. Si tu veux perdre du poids, il faut que tu manges moins, bouge plus. C'est quoi les risques associés à ça, justement, quand tu es un athlète ou quand tu t'entraînes quand même assez souvent dans la semaine? J'en ai quelques-uns en tête, mais j'aurais aimé ça t'entendre là-dessus.
Vas-y, pars, ça va m'aider à poursuivre.
Mais moi, le premier qui me vient en tête souvent, bien, probablement, ça va être le risque de blessure physique, là, parce que si ton corps n'est pas assez nourri, tes muscles sont pas assez nourris, t'es pas assez même concentré, là, direct, ça peut être plus risqué, là. C'est comme un des risques qu'on entend beaucoup. Sans parler des risques aussi au niveau de la motivation, parce que si tu ne manges pas assez puis que tu veux aller dépenser plus, ton corps, il ne sera pas willing, là, il ne voudra pas te suivre, là. Ce n'est pas les messages qu'il va t'envoyer, yes, on s'en va bouger. Ça risque d'être moins le fun aussi, tu sais, même au niveau santé mentale, mais juste, ça risque d'être moins agréable ton entraînement. Je pense aussi à la sensation de frapper un mur, là, qui est quand même, qui peut arriver, surtout en crossfit. Cette sensation-là que tes jambes sont comme dans le ciment ou tes bras puis que ça lève plus alors que d'habitude ça lève, là. C'est pas un risque en soi, mais. Il y a ça qui me vient rapidement en tête dans le fameux mange moins, bouge plus. Puis c'est facile après ça de se taper sa tête puis de se dire ah, c'est de ma faute, je manque de motivation. Comment ça, tout le monde autour de moi sont capables de le faire, y aller s'entraîner tant de fois, blablabla. Bla, bla, bla. Il y a comme tout ce volet-là aussi qui est quand même lourd, là.
Selon moi, je l'englobe souvent moi, dans mon explication du cercle vertueux de la performance versus le cercle
Ah, c'est
vicieux.
bon.
Le cercle vicieux de la performance, c'est justement de, pas de la performance, de la nutrition sportive, c'est de se dire, mange moins, bouge plus. Parfait. Fait que je mange moins à mon premier repas, je m'en vais m'entraîner, ça file un peu comme de la merde, je récupère mal de ce repas-là, mais je mange moins pour continuer la même roue. Donc, je dors mal, je récupère moins bien, puis le lendemain, j'ai moins le goût d'aller m'entraîner. Ça a mal filé, ça n'a pas été le fun, puis je n'ai pas bien récupéré. Mais mettons que
Ouais,
j'y
mais
vais
no pain,
quand
no
même,
gain, là, j'y
mauvais.
vais pareil.
C'est ça, mais c'est correct, je continue. Fait que j'y vais pareil parce que tu sais, je suis dans la motivation du début, puis là, je finis mon entraînement, je récupère encore pas assez. Fait que le lendemain, je dors mal. Fait que finalement, j'ai peut-être le skipper cet entraînement. Fait que tu sais, en voulant manger moins, puis au final, là, on parle encore de la loi de la thermogenèse des aliments, c'est tu veux manger moins pour justement diminuer tes apports, mais finalement tu dépenses moins aussi. Le fait que cette
C'est ça.
roue-là de cercle vicieux mène pas non plus à une perte de poids qui est durable dans le temps. Puis c'est un peu ça d'où sortent toutes les études où on est incapable de faire perdre du poids à personne. Fait que ce cercle vicieux-là mène toujours à ça. T'sais. Versus le cercle vertueux, qui est pour moi un peu je l'avais jamais mis dans ces mots-là, mais mange plus, bouge plus, c'est vraiment de se dire, en fait, c'est alimente ta performance alimente tes
Ouais.
entraînements. T'sais. Je mange un repas, je mange jusqu'à ma faim, puis je mange des aliments qui vont me donner de l'énergie. T'sais. On n'est pas obligé de manger n'importe quoi. On peut avoir justement une éducation, nutrition qui nous permet de savoir qu'est-ce qu'on a besoin pour aller faire un effort physique. Je m'en vais à mon entraînement, hey, il feel good, j'ai de l'énergie, j'ai du gaz, puis même j'ai eu du fun. Fait que là, je finis mon entraînement, je mange pour récupérer cet entraînement-là. Je me couche, j'ai une bonne nuit de sommeil parce que j'ai bien mangé, parce que j'ai pas faim. Je me lève le lendemain matin, j'ai bien récupéré. Puis j'ai le goût d'aller m'entraîner avec ma gang, puis de refaire du sport, puis d'aller retourner courir pour battre mon prochain record. Puis quand je finis, je remange pour bien récupérer cet entraînement-là, puis je remange pour bien dormir pour après ça. Tu comprends? Fait qu'au final, en mangeant plus, en alimentant ces entraînements, tu vas pousser plus à l'entraînement, tu vas finir par dépenser plus d'énergie. Puis quand on parlait tantôt de tendre vers son poids naturel, c'est ça un peu, là, tu sais, au final, le terme très technique de ça, c'est un déficit énergétique involontaire induit par justement ce type de vie-là, d'équilibre-là entre l'activité physique puis les habitudes
Tu feras pas un
alimentaires.
calcul calorique que tu rentres nécessairement dans une
Jamais.
application qui
Jamais,
est physique.
jamais. Tu vas seulement être, le seul focus va être basé sur justement à quel point, ben pas à quel point, mais va être basé sur c'est quoi mes habitudes alimentaires, est-ce qu'ils me permettent d'alimenter mon activité physique puis d'avoir du fun dedans, peu importe c'est quoi ton activité physique, tu sais. C'est pas parce que tu fais de la danse que tu bouges pas, tu sais. C'est pas parce que tu fais de la Zumba que tu bouges moins qu'au CrossFit, au contraire, tu sais. Il y en a qui se prennent le bang au CrossFit. Le point, c'est, il n'y a pas de sport meilleur que les autres. Le sport où tu vas vouloir te dépasser, le sport où tu vas accomplir des choses, le sport où qui va te fulfill, qui va te remplir le plus, donner le plus de gratitude, c'est lui là, qui va être le plus payant sur le long terme. Peu importe si, je ne sais pas moi, la course fait dépenser plus par
Exact.
temps que le vélo, tout ça, l'intensité est toujours une variable dans l'équation en recherche de ces calculs-là. Ben, si l'intensité est une variable, ça va être toujours elle qu'on va vouloir mettre l'accent dessus. Fait que de choisir un sport que tu aimes va toujours
Oui,
affecter
puis
ça.
on vise le long terme, tu sais, c'est ça qu'il faut se rappeler aussi. C'est pas. Mais ça vient aussi de la culture des diètes, puis d'un peu tout ce qu'on entend de perdre du poids à tout prix, tu sais, qui est valorisé encore une fois, mais les gros challenges de 30 jours ou ces affaires-là, tu sais, nous, ce qu'on veut, c'est le long terme, c'est qu'on veut trouver une façon d'intégrer le mouvement, l'activité physique, le sport, peu importe comment qu'est-ce qu'on veut utiliser comme terme, mais dans notre quotidien hebdomadaire, peu importe, mais à très long terme, là, c'est ça l'objectif, là. Puis pour la santé, c'est ce qu'on vise aussi, là.
Exact. Puis tu sais, j'ai le goût d'amener la nuance parce que là, je me sens un peu. Non, c'est pas vrai. Je me sens pas harsh un peu. Là, j'assume totalement ce que j'ai dit, mais j'aimerais ça amener la nuance que. Mettons que tu écoutes ça, c'est pas mal de vouloir perdre du poids. Okay? Dans le monde dans lequel on vit, c'est comme
C'est une belle nuance.
c'est hyper simple, c'est hyper normal qu'en ce moment, c'est ça ton envie. Mais tu sais, surtout là, mettons que ça sort après janvier, après les résolutions, tout ça, ben, sache que c'est pas ce qu'on parle aujourd'hui, tu peux le modifier. Ton prochain objectif, il peut être en lien avec. Alimenter tes entraînements, il peut être en lien avec justement améliorer ton temps de marathon, améliorer ton temps de 5 kilos, améliorer ton temps de 1 kilo, ou courir plus longtemps, ou tu sais, aller faire ton PR de friend au CrossFit, tu sais, de mettre l'accent justement sur quelque chose sur quoi tu as le contrôle, fait que tu sais, d'alimenter ta performance, tout ça, au lieu de viser un poids, puis de savoir que plus tu vas avoir un équilibre là-dedans, puis tu vas tendre vers le poids que tu veux, là, ou ton poids naturel en fait.
Ouais, c'est un super bon point, puis je trouve que ça ramène beaucoup à, moi, quand quelqu'un vient me consulter pour perdre de poids, ben premièrement, oui, c'est correct de consulter avec un désir de perdre de poids, no shame on you, là, hein? Ça c'est super, super important, comme professionnel, on n'est pas là pour juger, au contraire, c'est bien correct que t'aies ce désir-là, mais c'est de garder en tête, d'aller voir, d'aller creuser, puis de comprendre, il vient de où, c'est quoi qui se cache derrière ce désir-là, est-ce que c'est justement parce que c'est dans l'objectif d'améliorer la performance? Est-ce que c'est plus par rapport à l'image corporelle? Est-ce que c'est plus qu'on a des craintes pour notre santé? T'sais? Puis c'est pas qu'on ne travaillera pas nécessairement dans ce sens-là. C'est pas ça que ça veut dire. Ça se peut là, que finalement, on va le regarder, on va en parler, on va en discuter, mais la conclusion va être on ne peut pas contrôler le poids. Fait que voici où on pourrait mettre le
C'est
focus,
ça.
c'est ça. T'sais? Fait que si c'est la santé, mais on va aller voir les habitudes de vie, on va aller voir les comportements alimentaires, les comportements d'activité physique. Si c'est la performance, ben c'est ça, j'imagine. En fait, c'est le même principe, tu
On le voit juste dans un
sais.
autre
Exact.
angle. On regarde tout le temps. Moi, souvent, je parle des quatre sphères, justement, qu'on veut viser l'équilibre. Activité physique, habitude alimentaire, on en parle depuis tantôt. Puis là-dessus, tu as santé physique, santé mentale. On cherche à avoir cet équilibre-là, peu importe quel poids ça donne. T'sais. Puis ça, ces quatre sphères-là, quand ils sont en équilibre, on tend vers notre poids naturel. Fait que moi, la personne qui vient en consultation pour perdre du poids, souvent c'est tu veux pas nécessairement perdre du poids. En ce moment, tu as un inconfort avec le poids que tu as, puis on va aller trouver la raison de pourquoi
Exact.
tu veux le changer. Puis après ça, ben là, on va expliquer tout ce qu'on a expliqué depuis le début, mais c'est d'après ça d'avoir de reframer un peu ses objectifs, puis d'avoir comme focus autre chose que le poids
Ouais,
sur la masse.
exactement, c'est vraiment ça. Puis comme si quelqu'un d'autre te dit qu'il peut te garantir une perte de poids, red flag. Non.
Énorme, énorme red flag.
Good. Je gardais en dessert les diètes et régimes populaires qu'on entend.
Oui, mais attends, moi je dis qu'avant, je voulais. Tu sais, on a parlé beaucoup de justement les dangers de se sous-alimenter, mais on pourrait peut-être dire un petit peu comment faire
Ah,
pour bien
ben oui,
s'alimenter,
ben,
tu sais,
c'est beau ça, c'est une
sans
bonne idée.
déraper
Oui,
complètement, là.
tout à fait.
Mais tu sais, pour les gens actifs, selon moi, l'emphase, là, on le connaît tous souvent, on entend les protéines. Ça, c'est correct, je ne vais pas rajouter sur ce
Il est
message-là, les
bien, le
protéines
clou
sont
est bien
importantes.
rentré sur les protéines, je te confirme. Autant chez les
C'est ça,
femmes
il est
aussi, là,
enfoncé
oui.
trois fois. Exact. Fait que tu sais, les protéines vont être bonnes pour la récupération musculaire, tout ça, c'est correct, on le sait. Puis même pour une meilleure gestion de la faim, nous autres, dans le projet de doc que je te parlais tantôt, les protéines sont très importantes. C'est parfait, c'est good. La deuxième chose, ça va être les glucides et en grande quantité. Il faut arrêter d'avoir peur de ces aliments-là. La démonisation qu'on a faite des glucides n'a aucune base scientifique maintenant. Récemment, il y a eu un congrès à Obesity Week de chercheurs. J'y ai pas assisté moi, mais on en a parlé dans notre équipe de recherche, puis avec Benoît Arsenault justement, où on a bien démontré justement que ce fondement-là, d'associer par exemple la prise de poids aux glucides, était complètement erroné, même au niveau métabolique du corps humain, au niveau accumulation de la masse adipeuse. Je ne rentrerai pas dans les détails de ça, mais reste quand même que même en recherche maintenant, c'est rendu établi. C'est plus un thing de dire que les glucides font engraisser. Fait qu'on peut arrêter d'avoir peur des glucides. Oui, favoriser des sources de glucides moins transformées, des produits céréaliers de tous les types, blanc, blé entier, etc., de variés. Super parfait, mais d'en avoir régulièrement dans sa journée, d'en avoir pour alimenter ses entraînements, ça va aider à tout plein de niveaux, à pas être dans REDS comme on parlait tantôt, en syndrome de sous-alimentation, pas être dans LEA qui était la faible disponibilité énergétique. Ça va aider à plein de niveaux. Puis justement, c'est ça, sont intégrés fréquemment. Même chose pour bon, les fruits puis les légumes. On l'entend aussi à toutes les sauces, ça, mais comme athlète, ça arrive quand même souvent qu'on finit par délaisser ces aliments-là, par peur des fois que on les digère mal à
Ah ouais.
l'entraînement ou que ça file un peu différent. Ben, ça reste des aliments extrêmement importants pour tout ce qui est vitamines et minéraux. Puis aucun supplément vitaminique va venir
Même pas les
remplacer la matrice, même pas les greens.
Merci.
Jamais remplacer la alimentaire d'un fruit ou d'un légume. Ça aussi, dans la littérature, c'est super établi, puis on ne le passe pas le message. Fait que, au final, d'avoir régulièrement ces aliments-là, des fruits, des légumes, des sources de glucides provenant des produits céréaliers, etc., qui contiennent du gluten, let's go, et de la protéine, ça va être toutes des choses qui vont faire partie d'une alimentation de quelqu'un d'actif. Puis, pas juste d'un athlète. Là. Tu sais, là,
Oui.
je veux pas que les gens pensent que parce que moi, justement, je suis un peu d'un côté extrémiste de la vie active, que si vous vous entraînez 2, 3, 4 fois semaine dans un sport de intensité modérée, hey, c'est beaucoup. Là. Vous êtes plus actif que
Exact.
95, même je pourrais dire 98% de la population mondiale. Vous êtes quelqu'un d'actif, tu dois manger comme quelqu'un d'actif. T'sais. Fait que c'est pas parce que tu dis ah, ben je m'entraîne, je fais juste courir 3, 4 fois semaine, là, j'ai pas besoin de manger tant que ça. Ben, c'est faux. T'es très actif pour la population générale, tu dois manger en
Mais je comprends que
conséquence.
tu dises, parce que je l'entends souvent, ça, que, tu sais, avec les recommandations qui sont, t'sais, les gens pensent qu'il faut vraiment qu'ils bougent beaucoup et à tous les jours pour être considérés actifs puis augmenter leurs apports. Puis ce que j'entends beaucoup aussi, c'est, mais moi, je suis pas active, donc j'ai pas besoin de manger de glucides, ce qui est complètement faux, qui a été discuté longuement et très souvent dans le podcast, le rôle des glucides. Mais effectivement, tu sais, tout le monde en a besoin, tu sais, même si on fait rien de la journée, c'est juste les proportions dans l'assiette qui vont être différentes, là.
Exact. Ben oui, 100%.
Puis, justement, c'est une petite nuance qui est importante, là, mais je pense que ça vaut la peine de le mentionner aussi parce que moi, mes clientes que j'ai qui ont ce désir-là de perdre de poids puis qui vont bouger beaucoup vont penser qu'il faut qu'ils réduisent leurs apports encore parce qu'ils veulent perdre du poids. T'sais, le fameux mange moins, bouge plus. Mais j'aimerais ça qu'on le nomme que quand je suis active, actif, mes besoins sont plus élevés. Donc, je dois manger un petit peu 100%, plus.
Puis même encore là, c'est pour ça que justement, le calcul in-out des calories, il est erroné souvent dans notre pensée. C'est que là, même la personne qui va entendre ce que tu as dit va se dire « Ah ben, je vais merger les deux, je vais moins manger puis je vais plus bouger. » Fait que je vais créer un plus gros gap. Ce plus gros gap-là que tu vas créer en diminuant tes apports peut causer occasionnellement de finir par te faire prendre du poids sur du long terme. T'sais, ton métabolisme basal va s'adapter à ce gros déficit-là, puis va te pogner dans le détour. T'sais. Fait que de garder justement une alimentation qui alimente tout le temps cette dépense énergétique-là, cette activité physique-là, c'est extrêmement important pour le garder sur le long terme, puis pour que justement on tende tout le temps vers son poids naturel, puis qu'on continue ce chemin-là. Fait que un des très bons exemples de ça, c'est quelqu'un qui vient en consultation, qui a, par exemple, un poids éloigné, très probable de son poids naturel, et qui mange très peu. Puis qu'en faisant commencer à manger beaucoup plus avant, en faisant manger des glucides, elle va finir par justement retourner vers son poids naturel qu'elle avait de quelques années quand elle était beaucoup plus active. Fait que c'est vraiment très commun comme situation. Puis ça montre aussi que justement, de faire attention de ne pas vouloir jouer sur le plateau.
Oui, définitivement. Mais je trouve ça important de le nommer parce que c'est quelque chose que je vois vraiment souvent aussi, de ne pas manger assez, d'avoir peur de manger plus. Puis finalement, c'est un petit peu ça, tu sais, c'est que tu restes pogné dans le cercle, la restriction, c'est que si tu ne manges pas assez puis tu essaies de bouger plus, tu ne vas pas perdre du poids parce que ton corps voit ça comme une menace pour sa survie. Tu es dans une famine, puis lui, il essaie de survivre, puis il va avoir les adaptations métaboliques pour. Mais quand on recommence à nourrir adéquatement son corps, c'est ça qu'on veut, c'est nourrir à la bonne, ce que ton corps a besoin, point. Tu sais, puis après ça, lui, il va s'ajuster en conséquence.
Sans vouloir rentrer trop technique, là, tu sais, le fait, par exemple, de vouloir diminuer ses apports, tout ça, au final, ça peut même causer que tu construis moins de masse musculaire, par exemple, puis ton métabolisme basal va s'adapter, puis tu vas... Alors que si tu es dans l'opposé, le fameux cercle vertueux, tu vas construire de la masse musculaire, peu importe si tu es une coureuse ou quelqu'un qui fait du gym, là. Tu vas récupérer tes entraînements des déchirures musculaires, tu vas construire de la masse musculaire qui va augmenter ton métabolisme basal, donc la dépense énergétique que tu as au repos, qui va contribuer à tous les objectifs que tu peux avoir. Fait que c'est pas juste comme pour vous consoler qu'on dit ça, là. C'est littéralement dans la littérature scientifique, ce sur quoi on observe les effets que ça peut avoir sur le corps là, de faire ces changements. Tout à fait.
Merci de la précision. Bien intéressant. Good. On est-tu rendu au dessert?
Ouais.
Je pense qu'on va conclure ça assez facilement, mais je suis quand même curieuse de t'entendre.
En avez-vous déjà parlé sur le podcast?
Un petit peu, mais pas en lien avec le sport, nécessairement. Fait que... en fait, les diètes régimes et compagnie, sur le fonctionnement et tout. Mais quoique, j'ai pas fait des épisodes dédiés à la chose, par exemple. Tu me donnes des idées, là. Mais par rapport à la performance, non.
Ben, je vais garder cet angle-là de bord. Le premier, le plus classique, c'est le jeûne intermittent. Puis je commence quand même par le moins pire. Là. Je vais aller de plus en plus rock'n'roll. Le premier étant le jeûne intermittent, qui est le principe de ne pas manger dans certains intervalles. Puis je vais même commencer par le fait de s'entraîner à jeun. Parce que c'est beaucoup plus courant que le jeûne intermittent. Puis il y a beaucoup de gens qui le font. Puis je veux tout de suite mettre de l'avant que c'est l'équivalent. OK? Il n'y a aucun bénéfice qui a été associé dans la littérature à s'entraîner à jeun sur je ne sais pas quelle oxydation de lipides, de n'importe quoi. Là. Il n'y a rien, OK? Il n'y a absolument rien. Mais le fait qu'il n'y ait rien, ça reste une information quand même. Parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de désavantage non plus à s'entraîner à jeun si ça ne joue pas sur l'intensité. Fait qu'au final, si tu n'as vraiment pas faim avant d'aller faire ta course le matin ou ton entraînement, ben tu peux travailler avec ton nutritionniste à tranquillement intégrer peut-être une petite source de glucides, des choses comme ça pour te permettre d'avoir du jeûne un petit peu plus longtemps. Mais tu sais, si ça ne dure pas très longtemps, tu vas pouvoir, puis si tu le fais déjà depuis longtemps, fait que tu es déjà habitué, tu vas pouvoir t'entraîner à jeun avec les mêmes bénéfices que tu aurais si tu t'entraînais avec de l'énergie que tu viendrais de manger. Fait que s'entraîner à jeun, très correct. Tu le fais parce que c'est bon pour toi, parce que ça marche pour toi. Tu le fais parce que tu le fais pas parce que tu n'es pas capable de t'entraîner à jeun, peu importe, il n'y a aucune différence entre les deux, c'est vraiment la même chose. Pour ce qui est du jeûne intermittent, par contre, selon moi, puis vraiment avec mon angle de, j'ai fait mes études en comportement alimentaire beaucoup, ça nous fait développer
Exact.
des mauvais
Oh,
patterns alimentaires.
mais il y a eu des
Correct.
résultats sur ça aussi, là. Bon, ça reste que c'est une étude, mais il y a une étude qui nous a parlé de ces conséquences-là, puisque ça a augmenté le risque de troubles alimentaires aussi. C'était quand même intéressant.
100%. 100%, je suis zéro surpris de ça. Puis, au final, même concrètement, ce que ça développe comme habitude alimentaire, c'est que ça t'habitue à attendre d'avoir extrêmement faim avant de manger. Ça, dans
Ouais.
l'étude, la recherche sur les comportements alimentaires, ça a été démontré comme étant néfaste sur deux aspects. Difficulté à manger selon notre niveau de faim. Donc, c'est difficile après ça de reconnaître quand j'ai plus faim. Souvent, on va soit manger plus qu'à nos besoins ou pas assez quand on est dans un régime restrictif. Et ça nuit au choix alimentaire qu'on va faire. Plus on attend longtemps à avoir faim, sûrement qu'il y a plein de gens qui ont déjà eu cette expérience-là, mais quand on a extrêmement faim, c'est vraiment dur de faire des bons choix alimentaires. Puis par bon, je veux dire nutritifs ou qui vont amener justement, qui vont alimenter ta prochaine activité
Oui,
physique, fait que
des choix qu'on
glucides,
aurait fait si on n'avait
bilirubine.
pas été affamé, en fait. C'est juste ça, là.
Exact, 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 exact. Tout le côté aussi là, de genre être pressé de manger tellement qu'on a faim, moins cuisiner, aller acheter des repas préparés, ça rentre en compte aussi là-dedans. Puis c'est des comportements que tu développes en ayant ce pattern-là alimentaire de jeûne intermittent, peu importe les effets positifs qu'on peut y associer. T'sais. Même si il y a beaucoup de littérature en lien avec, il y a plein de médecins là, aux États-Unis qui essayent de trouver des liens avec les maladies cardio, avec justement l'oxydation de certains lipides, de je ne sais pas quoi, dans des trucs beaucoup trop complexes, alors qu'au final, leurs résultats sont expliqués toujours seulement par un. Là, dans la recherche, on dit un poids plus faible, mais au final, c'est juste un changement d'habitude alimentaire pour le mieux, là, t'sais, un rapprochement du poids naturel de ces personnes-là. Fait qu'au final, le jeûne intermittent, pour moi, c'est une diète comme les autres, c'est à ne pas faire.
Merci, c'est pas mal la conclusion que j'avais aussi in general, surtout avec la clientèle qui a déjà baigné dans la culture des diètes puis qui a des comportements alimentaires qui sont plus à risque, là, qui est comme pas mal ma clientèle.
100%. Ouais,
Très
ben oui, ben
nice,
oui.
merci.
Sinon, au niveau du keto, qui est notre deuxième mal-aimé, puis dans le bac en nutrition, c'est quasiment en tout cas, je sais pas toi dans tes années, là, mais nous, c'était un running gag, là. Quelqu'un disait keto, puis tout le monde partait à rire.
Ben là, moi, je suis trop vieille. Keto est sorti après mes études.
Ah, ok, ouais,
C'est ça le problème.
mais il n'est pas sorti après.
Ben
C'est
ouais,
ça que j'allais
excuse-moi, il n'est
dire.
pas
C'est dans
sorti.
le
C'est
monde.
popularisé après, parce qu'il existe depuis très longtemps.
Popularisé
On
dans
l'a vu d'ailleurs, là, on l'a vu dans la langue qu'il fallait qu'il soit vu, là. Mais non, c'était pas popularisé comme ça l'est aujourd'hui.
Puis pour la performance, c'est aussi vraiment pas backé. T'sais. Là, c'est un peu l'opposé de fuel ou de s'alimenter aux glucides versus aux lipides. Fait que c'est un peu ça souvent le débat qu'ils vont étudier dans la littérature. Dans tous les cas, les glucides gagnent. T'sais. Je vais mettre un bémol là, dans les sports d'ultra-endurance où on va se rendre jusqu'à déplétion complète de nos réserves de glycogène musculaire. C'est trop technique, là, mais quand tu es vide de ton énergie, ben, tu vas aller puiser dans tes réserves. Fait que si ton corps est plus habitué à utiliser les lipides, son chemin métabolique va être plus facile. Fait que techniquement, il y aurait des bénéfices quand on fait des épreuves d'ultra-endurance. Et je parle de 4 heures, 5 heures, 8 heures, 12 heures. Il y a du monde qui font des trucs qui n'ont plus de bon sens, là. Ben, là, il y aurait peut-être un avantage à être en équilibre entre son apport en glucides et en lipides. Je parle pas keto, là. Je parle en équilibre. Fait que ça, c'est la seule nuance qu'il y a à faire. Sinon, dans tous les sports, que ce soit d'un effort de 3 secondes comme un snatch en haltérophilie ou un effort de 3 heures au marathon, les glucides sont la meilleure façon d'utiliser de l'oxygène, de fournir de l'énergie à nos muscles et de finalement effectuer notre activité physique.
Et voilà, tout est dit. Je ne suis zéro surprise, c'est ce que j'attendais, mais je suis quand même contente parce que il y a quand même des études, surtout sur le jeûne intermittent, comme tu dis, puis il y a même certains médecins spécialistes qui en parlent beaucoup dans les médias traditionnels, comme qui vont vanter ça, mais c'est toujours de garder en tête pour qui, puis c'est quoi les conséquences, tu sais. Fait que dans tout ce qui est comportement alimentaire, ça touche quand même une bonne partie de la population. Qui a une relation qui est plus difficile avec la nourriture, sans parler du trouble alimentaire, puis la diète cétogène, mais c'est un petit peu ça aussi qui peut être le danger, parce que ce qu'on voit avec la diète cétogène, en plus, c'est comme, là, on parlait de performance, mais si on va voir la grosse perte de poids, puis c'est pas tout le monde, mais quand il y en a, c'est comme, c'est ça que les gens retiennent, que c'est frappant, mais il faut toujours garder en tête le long terme. Qu'est-ce qui se passe si je suis pas
Oui,
capable de la maintenir, la
c'est.
diète, il se passe qu'il y a une bonne reprise de poids qui se fait, là.
Guess what? Tu ne seras pas capable de la maintenir. Tu sais, je veux pas être défaitiste, là,
Mais les études le
si en
montrent
ce
pas
moment vous êtes.
mal,
Ah, c'est ça. Tu sais, même affaire pour toutes
Mais
les
c'est ça,
diètes en
exact.
général, tu sais, c'est ça qui est redondant un petit peu dans notre
Oui.
message, mais tu développes, tu sais, du moment que tu développes des patterns alimentaires, là, des habitudes alimentaires qui sont pas d'écouter ta faim, qui sont pas de manger des fruits puis des légumes, qui sont pas de manger des sources de protéines, des sources de glucides, régulièrement, d'avoir une alimentation équilibrée, tu tends vers quelque chose qui, sur le long terme, ne sera pas bénéfique pour toi. Tu sais, c'est dull, c'est pas sexy pantoute. C'est bien plus
Mais
sexy de
oui,
dire
c'est vendeur.
hey, tu vas mettre du beurre dans ton café, manger du bacon. C'est un peu cliché, là, la
Ouais.
keto est moins, de
Ah
moins en
oui,
moins
quand
ça.
même.
Mais peu
Le
importe,
principe est le même.
des avocats, du saumon à l'infini, tu sais, c'est comme tu tends vers des habitudes, vers développer un pattern alimentaire qui est pas simple, qui va au final te faire prendre du poids, qui va t'éloigner de ton poids naturel. T'sais. Peu importe, même si ta keto, la keto clean, là,
Oui,
j'ai déjà
je l'ai
entendu
entendu
ça, là.
celle-là aussi, ouais.
Est-ce que tu réduis ton apport en glucides à zéro, tu crées une démonisation de ces aliments-là qui sont cravés par l'être humain parce que, guess what, notre cerveau utilise du glucose pour
Ben
se fueler. Oui, les cétones,
oui,
tout
mais
ça, je suis
c'est en
très d'accord. Mais
survie là, que le corps utilise les corps cétoniques.
c'est
C'est pas
ça.
fait pour être
Exact.
utilisé normalement. Je veux dire, le corps est tellement une belle machine. Pourquoi on irait contre ça? T'sais, c'est ça qui est quand même fascinant aussi, là. C'est sûr qu'il y a ses défauts. Le reste que on est fait programmer pas pour être dans un environnement où on a accès à la nourriture en tout temps super disponible puis être surstimulé, là, mais reste quand même que c'est ça. Il nous a permis d'être là aujourd'hui, t'sais.
100%, 100%. C'était drôle dans ta dernière phrase, il y avait tellement de contenu juste comme matché in, là.
Ouais. Il se passait bien des affaires dans ma tête en ce moment. Mais c'est ça, on s'essoufflera jamais de parler de ce sujet-là parce que tant que le poids va être au cœur de toutes les discussions, va être autant valorisé, les standards vont être ce qu'ils sont aujourd'hui, que les préjugés vont exister, on va toujours avoir ce combat-là finalement au niveau de l'alimentation, là.
Oui, puis c'est faux. Je pense pas que comme nutritionniste, il faut penser qu'un jour ça va
Oh non,
disparaître. T'sais, un
je
peu
pense qu'on
comme
verra pas ce jour-là.
l'homophobie,
Pas nous.
un peu comme l'égalité des
Exact.
sexes, un peu comme le racisme. T'sais, c'est tous des combats de préjugés, souvent un peu de stigmatisation. Ben, quand tu milites dans ces sphères-là, peu importe c'est quoi ton cheval de bataille, il faut que tu sois prêt à ce que ça ne soit pas réglé, là. Tu sais, c'est pas quelque chose que tu règles, c'est quelque chose que tu veux faire tendre
Exact.
vers quelque chose de mieux, mais c'est pas quelque chose
C'est
que
ma petite
tu.
parcelle de goutte dans l'océan. C'est
C'est
ça.
ça.
Mais oui, mais c'est ça, c'est de changer tranquillement, puis planter des graines, attendre qu'ils poussent. Puis effectivement, ça va prendre du temps, mais ça s'améliore quand même. T'sais, si moi, je remonte à justement quand j'ai commencé versus ce qu'on a aujourd'hui, il y a une différence vraiment majeure.
J'en suis la preuve même. Là. Tu sais, moi, j'étais le premier gym. Peut-être je ne suis pas dans le public, mais les gym bros, là, je ne sais pas si les gens connaissent, mais, tu sais, les conseils YouTube de riz, poulet, brocoli, tu sais, le classique du classique, j'étais à fond la caisse dans cette optique-là de la nutrition. Puis, presque au final, c'est plus du tout ça, mon discours. Là, fait que ça fait. Je pense que tout le monde peut évoluer là-dedans puis changer. Puis, on travaille dans cette
Ben
direction-là.
merci vraiment, honnêtement, on va suivre tes travaux avec intérêt aussi là. Honnêtement, c'est, je savais pas que c'est ça que tu faisais comme recherche, capa là. Je trouve ça
Mais
fascinant.
souvent les gens en recherche, t'sais, en tout cas, ça a l'air plate la
Oui.
recherche,
D'un
mais c'est ouais, c'est ça.
point de vue extérieur, oui, mais c'est tellement important, on serait pas là sans votre travail, tu sais. Mais oui, je
Non, mais
l'accorde, ça a l'air
c'est
plate.
tellement stimulant au
Mais je
final,
comprends, là.
t'sais, il y a des parties plates. Là. Écrire un article scientifique, il n'y a rien de plus beige que ça, je suis d'accord. Mais être entouré de personnes qui ont passé leur journée à lire des articles puis à en écrire, puis de jaser de
Puis là,
ça.
j'avoue que je suis jalouse.
C'est les discussions les plus enrichissantes. T'sais, un congrès, là, justement, de nutrition, c'est incroyable. Il n'y a rien de plus stimulant que ça. Là. Je le sais que j'ai l'air tout le temps passionné quand je parle de ça, puis je suis un peu intense,
Bon,
mais
mes
reste que,
auditrices sont habituées
c'est...
à l'intensité,
c'est ça.
je t'avouerai.
C'est
Oui.
beau, là, t'sais, c'est vraiment un échange de personnes qui sont allées... T'sais, un doctorat, on s'entend, c'est que tu vas trop deep dans de quoi que tu pourras plus parler avec personne. Fait que, le truc, c'est après ça d'essayer de ramener ça au même niveau que tout le monde, puis d'échanger en lien avec ça, parce qu'on le sait que nous autres, le temps qu'on a passé dans notre direction, tu sais, on s'est éloigné de certains sujets. Mettons, moi, quand je parle avec Benoît Arsenault, je ne peux pas y parler de lipides, je ne comprends rien. Un jour, je vais être docteur en nutrition, je ne comprendrai rien encore de l'oxydation des lipides, anyway. Mais lui, probablement, qu'il n'aura pas la même connaissance que moi sur la gestion de la fertilité puis des hormones reliées à ça. Fait que c'est après ça que, là, que c'est important de venir se parler puis que ce qui devient super enrichissant. Mais même sur ton podcast, c'est un peu ça que ça permet aussi d'une certaine façon. Là, c'est rare que nous, en recherche, on a la chance d'aller vulgariser nos données. Puis souvent, on est poche pour ça.
Mais tu t'entends bien. Genre,
Correct. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai été un peu trop technique.
Je pense que c'était bien, honnêtement. Les gens suivent, puis ça reste que c'est un sujet qu'on parle depuis je sais pas combien d'épisodes rendus à ton épisode. Fait que c'est des termes que peut-être... Parce que les gens partent pas de zéro.
C'est ça. Puis j'ai été en écoutant les autres, je voulais aussi apporter quelque chose de nouveau. Puis des fois, comme les personnes qui nous écoutent en ce moment, qui sont les plus critiques, qui sont les plus connaisseurs en nutrition, vont avoir des contre-arguments sur certaines choses qu'on a dit aujourd'hui. Fait que pour moi, d'amener la phrase, mettons, où je pars un peu trop dans la science, puis je back un peu trop mes affaires, c'est pour cette personne-là, tu sais. 95% des gens font comme, OK, peux-tu arrêter de parler de genre, ces recherches, c'est de la merde. Mais cette personne-là a fait comme, elle a eu un contre-argument, elle s'est dit, ah non, je vais continuer à moins manger, puis ça a fait, ah non, OK, ouais, OK, ça ajuste le métabolisme, ou ça fait telle affaire sur les lipides. Ah, OK, moi, peut-être que... Fait que, tu sais, c'est ça mon but un petit peu d'amener tout le temps ces petites touches-là un peu trop intenses, mais c'est pour du monde
précis. Mais c'est important, puis oui, ça tombe dans les bonnes oreilles, c'est sûr, ça.
Bon, super, mais merci beaucoup pour l'invitation.
Merci à toi, c'était une méga belle discussion. C'est comme... je suis enchantée et surprise de la découverte de la discussion. je me suis fait prendre à mon propre jeu, j'adore ça. J'aime ça être surprise, fait que génial, merci. Good. Fait que pour les autres, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. T'écoutes le podcast et tu te dis « Oh wow, ça me parle, mais ish, j'y arriverai pas toute seule. J'ai vraiment besoin d'avoir un accompagnement personnalisé. » Bien, ça tombe bien parce que j'offre des consultations individuelles partout au Québec. Je t'invite sur mon Linktree sur Instagram ou mon Facebook ou encore sur mon site internet pour en savoir plus. Merci de ton écoute. Si jamais tu as des commentaires ou des suggestions sur le podcast, je t'invite à me suivre sur les réseaux sociaux Sarah Normandin, nutritionniste, Facebook et Instagram. Tu peux aussi consulter mon site internet sarahnormandinnutritionniste.com. Ça va me faire plaisir de jaser avec toi.